sujet ce soir qu'on a choisi, c'est un sujet très philosophique. Enfin, d'une part, ça touche tout le monde, parce que tout le monde veut savoir, mais dans ma vie, qu'est-ce qui est prédestiné et qu'est-ce que je choisis. Enfin, en même temps, c'est une question enfin, philosophique sur laquelle tous les grands penseurs et même des pas si grands penseurs ont commenté, etc. Alors, évidemment, je veux présenter le point de vue Baha'i là-dessous. Donc, je vais faire ça de façon assez systématique. D'abord, nous croyons qu'il y a un Dieu, un seul Dieu, un Dieu unique, et que ce Dieu est tout-puissant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est tout-puissant? Est-ce que ça veut dire que Dieu peut faire n'importe quoi? Non. Parce que, est-ce que Dieu peut cesser d'être Dieu? Est-ce qu'il peut choisir de ne pas être Dieu? Est-ce qu'il peut nier sa propre nature? Alors, donc, les philosophes modernes, nous sommes tous mis d'accord sur le fait que l'omnipotence de Dieu veut dire que Dieu, que sa volonté n'est pas contrainte, que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, qui est cohérent ou consistant avec sa nature divine. Okay? Donc il peut faire ce qu'il choisit de faire, mais il ne peut pas nier sa nature divine, parce que ça, ce n'est pas une liberté, ça, c'est plutôt une contrainte. N'est-ce pas? Donc c'est une... Alors, ça règle la question des sortes de problèmes que les gens aiment poser. Si Dieu peut tout faire, est-ce qu'il peut construire un rocher qui est tellement grand qu'il ne peut pas le soulever, n'est-ce pas? Ou une chose contradictoire, est-ce qu'il peut faire une chose contradictoire? Non, il ne peut pas faire une chose logiquement contradictoire. Et ça, ce n'est pas une contrainte sur la volonté de Dieu. Mais c'est plutôt une liberté, c'est-à-dire le fait qu'il puisse nier sa nature, ça serait une contrainte à sa liberté, plutôt qu'une expression de sa liberté. Mais Dieu, donc, a toute puissance, et en particulier vis-à-vis du reste de la création, et y compris nous-mêmes, il a un contrôle absolu. C'est-à-dire qu'il n'a absolument aucune limite ou contrainte sous la volonté de Dieu. En même temps, la foi Baha'i enseigne que chaque être humain, chaque âme humaine, est doté par Dieu d'une certaine libre arbitre. Je dis certaine parce que nous n'avons pas une liberté absolue. Vous n'êtes pas libre d'aller voler par vos propres moyens, par exemple, parce que vous n'avez pas la possibilité de faire ça. Vous pouvez désirer des choses que vous ne pouvez pas choisir, n'est-ce pas? Donc il faut quand même faire une distinction, je m'excuse d'être aussi philosophique si tôt, mais il faut quand même faire une distinction entre désir et choix, n'est-ce pas? Parce qu'on peut désirer des choses fantastiques, mais ce n'est pas des choix, ça. Des désirs, ce n'est pas des choix. Donc, quand on parle de libre arbitre, on parle des choix, des choses qu'on peut vraiment choisir. Donc, ils sont dans le champ de notre volonté, si vous voulez. Alors, c'est évident que certaines choses ne sont pas dans le champ de notre volonté, par exemple, qui sont nos parents, où nous sommes nés et tout ça. Enfin, il y a toutes sortes de circonstances dans notre vie qui sont complètement en dehors de la portée de notre volonté. Il y a d'autres choses qui sont évidemment dans la portée de notre volonté. Et puis, évidemment, il y a une zone grise où on peut demander, mais est-ce que c'est vraiment nous qui avons fait ça, ou est-ce que c'était vraiment une coïncidence, etc., etc. Alors, on va traiter de ça. Mais d'abord, j'aimerais régler la question suivante. Il y a des théologiens et des philosophes de tous les âges, depuis le début jusqu'encore aujourd'hui, qui disent qu'il est impossible, qu'il est incompatible logiquement d'avoir un Dieu tout-puissant et en même temps d'avoir un être créé qui a une liberté. Parce que si Dieu est tout puissant, il peut tout faire, donc il peut contrecarrer notre volonté, alors on ne peut pas avoir une volonté. Qu'est-ce qu'on est libre de faire? On est libre de rien faire, parce que Dieu peut faire n'importe quoi. Alors, la réponse à ce dilemme est essentiellement le suivant. Dieu peut faire tout ça, mais il faut faire une distinction entre ce que Dieu peut faire et ce qu'il choisit de faire. Donc, Dieu a choisi de nous doter d'un libre arbitre. Il peut contrecarrer ce choix à n'importe quel moment. Donc, encore une fois, il faut pas se laisser jouer par cette question parce qu'il y a une certaine pensée théologique qu'on rencontre assez souvent, qui dit que si Dieu est capable de faire quelque chose, alors il doit le faire, n'est-ce pas? Il doit faire tout dont il est capable. Mais ça c'est pas vrai, parce que justement, ça contrecarre l'omnipotence de Dieu. Il n'a aucune contrainte sur sa volonté, donc il peut faire des choix et ne pas faire d'autres choix dont il est capable de faire, mais qu'il ne veut pas faire. Mais ça veut dire quand même que notre liberté a le droit à Dieu. N'est-ce pas? Si Dieu n'avait pas choisi de nous doter d'une liberté, alors on ne l'aura pas, n'est-ce pas? On n'a pas notre liberté comme une sorte de droit acquis. C'est un don qui vient de Dieu et qui s'insère dans les buts de Dieu. Alors, quels sont ces buts? Mais précisément, dans la foi Marie, on explique que la liberté, ça nous permet de participer dans notre propre devenir. C'est-à-dire, si on n'avait pas de liberté, on serait quoi? Des automates, n'est-ce pas? On serait comme des robots. Alors d'abord, il n'y aura plus de question de moralité, parce qu'un robot fait ce qu'il est programmé à faire, il n'est pas responsable. La notion de responsabilité morale nécessite la notion de liberté. Si vous ôtez la notion de liberté, la notion de responsabilité morale n'a plus de sens. Okay? Donc toute la question de moralité, de responsabilité morale, a un sens seulement si l'homme est doué d'une réelle volonté. Okay? Donc il est responsable des choix moraux qu'il fait, c'est-à-dire les choix entre le bien et le mal. En tout cas, il est responsable, disons, des choix conscients qu'il fait. Selon les écrits baha'is, Dieu ne tient pas les gens responsables des choix qui se font dans l'inconscience totale, n'est-ce pas? Mais des choix conscients qu'on fait, nous sommes responsables. Nous sommes responsables devant Dieu et devant la société, devant nous-mêmes, devant tout le monde, n'est-ce pas? On est responsable de nos choix. Maintenant, comme j'ai dit, les écrits baha'is expliquent que la raison que Dieu nous a doté de cette liberté, c'est qu'on puisse participer à notre propre devenir, qu'on soit autre chose que des automates. Et on peut aussi dire qu'il est dit dans la Bible et dans tous les écrits religieux d'ailleurs, dans les écrits baha'is aussi, que l'homme est fait dans l'image de Dieu. Alors ça veut dire que dans une certaine mesure, Dieu a choisi de doter l'homme, de créer l'homme le plus près possible de lui-même. C'est-à-dire, l'homme reflète tout ce qu'il est possible pour une créature de refléter de Dieu. L'homme est, si vous voulez, l'apogée de la création. Il n'y a rien dans la création au-dessous de l'homme. Et puisque la liberté de choix est un des attributs, une des qualités principales qui définissent Dieu, alors en nous créant à son image, Dieu nous a doté de liberté qui nous donne le pouvoir de créer par nos choix. Donc, encore une fois, dans ce sens-là, nous reflétons les attributs de Dieu. Nous reflétons la nature divine, pas parfaitement, mais dans une façon relative. Et donc le fait que nous avons une liberté reflète la volonté de Dieu de créer une créature à son image. Maintenant, il y a encore un argument. Les écrits Baha'i disent, avec d'autres philosophes aussi, que Dieu est à toute connaissance. Et ça veut dire toute connaissance du passé, du présent et de l'avenir. Dieu sait tout. Alors, il y a encore un argument théologique qui dit, mais si Dieu sait tout d'avance, ça contrecarre la notion de liberté humaine. Parce que si je dois choisir entre A et B, et Dieu sait d'avance quel choix je vais faire, alors je n'étais pas libre de choisir autrement. Okay. Alors, honte à vous si vous tombez dans ce piège, parce que je vais maintenant vous prouver que c'est un raisonnement complètement illogique. Alors, mais j'avoue que c'est subtil un peu. Oui. Alors, voici donc la ligne de vie d'une personne, mettons vous-même, une personne P, c'est ce qu'on a bon. Et à un moment donné, P a un choix entre A et B. Ok, non, je vais montrer, mais il faut que j'écrive d'abord. Et pour simplifier les choses, nous supposons que A et B sont les seuls choix possibles à ce moment-là, ok, et que les choix sont irréversibles. C'est-à-dire, une fois qu'on a choisi A, on ne peut pas revenir et choisir B plus tard, n'est-ce pas? Et souvent, les choix sont de cette nature, n'est-ce pas? Ils sont irréversibles et binaires. Maintenant, le raisonnement des gens disent, ok, voilà Dieu. Voilà Dieu dans son ciel. Qui sait ce que nous allons choisir? Donc, supposons que je choisis A. Alors donc, au moment, ça c'est au temps T1. Oups, c'est difficile d'écrire à l'envers, oui. Voici, ça c'est le temps T1. Ça veut dire qu'après que je fais le choix pour A, je suis rendu à un temps T2. Je suis rendu à un temps T2 où je suis là. Ça, c'est la ligne de vie que j'ai choisie. Donc, je suis arrivé à ce point A. J'étais au point, K ici. J'étais au point de bifurcation K. Maintenant, je fais le choix A. Je suis rendu au choix A. Alors, je savais d'avance que j'allais choisir A. Donc, selon l'argument que je qualifie de faux, je n'étais pas vraiment libre de choisir B, parce que Dieu savait que j'allais choisir A. Mais la faute dans cet argument, c'est que la préconnaissance de Dieu de mon choix n'est pas la cause de mon choix. C'est-à-dire, effectivement, une fois que je suis rendu ici à A, je n'ai pas d'autre choix. Mais ici, au point K, j'avais un choix réel. J'aurais pu choisir B. J'étais libre de choisir A ou B. Donc, les gens, leur faute dans ce raisonnement, c'est de confondre les deux points, les deux situations, K et A, n'est-ce pas? C'est-à-dire, effectivement, une fois que j'ai fait le choix, il n'y a pas d'autre choix à faire. Ok? Vous comprenez? Une fois que j'ai fait le choix, mais bien entendu, rappelons que j'ai dit que les choix sont irréversibles. Donc, une fois que j'ai fait le choix A, je n'ai plus de choix. Je n'ai plus de choix. Mais ça ne veut pas dire qu'au point K, ici, je n'avais pas un réel choix entre A et B. Et nous pouvons même prédire nous-mêmes certaines choses. Nous pouvons dire à certaines personnes, je le connais bien, dans telle ou telle circonstance, il va agir de telle ou telle façon, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le pouvoir prédire avec une certaine certitude, le choix qu'une personne va faire, n'est pas à ce point-là merveilleux, mais nous pouvons le faire dans certains cas, avec une très grande probabilité. Et donc, si Dieu a toute connaissance, ok, alors il peut vraiment prédire absolument le choix que nous allons faire. Donc, dire que nous avons liberté, donc, veut dire la chose suivante. Que notre volonté est une entité existante et qui est un déterminant réel des circonstances de la réalité. C'est-à-dire, il a des multiples causes à chaque chose, n'est-ce pas? Il n'y a pas une cause unique aux choses qui nous entourent, en fait. Quelle est la cause de mon existence? Ben, c'est mon père et ma mère. Mais c'est aussi quelle est la cause de leur existence, ben, c'est leurs ancêtres, et quelle est la cause de ça, ben, c'est l'évolution biologique, et qu'est-ce que c'est la cause de ça, ben, etc. On remonte jusqu'au début de l'univers, etc., n'est-ce pas? Alors, donc, il a des multiples de causes à chaque chose. Alors, dire que la liberté chez l'homme est réelle veut dire que la volonté, votre volonté, par exemple, existe comme une entité, que ça a une existence objective. Ce n'est pas simplement une idée ou une impression que vous avez, ce n'est pas subjectif, que votre volonté existe de façon objective, c'est une entité objectivement existante. Et que c'est un déterminant réel. C'est un déterminant réel. Okay? Donc, autrement dit, dire que c'est un déterminant veut dire que certaines choses auraient été autrement si ce n'était pas pour votre choix, votre exercice de votre volonté. Il y a certaines choses qui sont comme ils sont à cause de votre choix et pour aucune autre raison. C'est-à-dire, si vous avez fait d'autres choix, il aurait eu d'autres circonstances actuelles. La réalité actuelle serait différente si vous aviez fait d'autres choix. Ça veut dire que je verrai juste votre choix. Toutes les autres circonstances, toutes les autres causes multiples restent inchangées dans cet exemple. Est-ce que ça c'est clair? Ok. Ok, donc, dernière chose, je vais évacuer tous ces arguments philosophiques. Il y a un dernier argument, qui est l'argument matérialiste, qui dit la chose suivante. Ok, vous dites que j'ai une liberté de choix entre A et B au point K. Alors, on oublie Dieu parce que, enfin, bon, je suis matérialiste, je ne sais pas même si Dieu existe, etc. Mais il a des raisons, il a des causes de mon choix. C'est-à-dire, la raison que je choisis A plutôt que B, ça peut avoir à faire avec mon enfance, avec... tout mon subconscient, enfin, tout un tas de choses. Et si nous croyons au déterminisme psychologique, alors mon choix est parfaitement déterminé. Je n'ai pas de vraie liberté, c'est-à-dire mon choix, c'est simplement le cumul de toutes ces raisons qui font qu'à ce moment-là, je choisis ça et je n'aurai pas... J'ai l'impression que j'avais un autre choix à faire, mais en réalité, je n'avais pas d'autre choix à faire parce que mon choix, à ce moment-là, était déterminé par tout mon vécu, etc., tout le cumul de mon expérience de vie jusqu'à ce moment-là. Alors, la faute dans cet argument, c'est que c'est tout à fait vrai, mais si la volonté existe objectivement, comme j'ai dit, et est un déterminant des circonstances, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il a toutes ses raisons plus le choix que je fais. Et le fait que je fais un choix à cause de certaines raisons, c'est-à-dire, pour prouver que je suis libre, est-ce que je dois faire des choix que je ne veux pas faire? Pour prouver que je suis... Il y a même une littérature là-dessus, il y a même des gens, enfin c'est une chose très extrême, mais ça existe dans toute la littérature, des gens par exemple qui cherchent à prouver qu'ils sont libres, par exemple en faisant l'assassinat de quelqu'un, n'est-ce pas, enfin, ou en posant un geste, ils disent la vraie liberté c'est de briser toutes les lois, etc., n'est-ce pas. Alors donc, je reviens dans la chose. Je suis parfaitement libre de choisir ce que je ne veux pas choisir. Mais je ne vais jamais choisir ce que je ne veux pas choisir. Je vais toujours choisir ce que je veux choisir. Parce que ça, c'est l'usage de ma liberté, l'usage rationnel de ma liberté. Donc le fait qu'il a des causes à mon choix n'enlève rien à la liberté de choix. C'est ça. Donc ça, c'est un argument matérialiste. Enfin, mais Kant, un philosophe aussi grand que Kant, est tombé dans ce piège-là. Mais je vous épargne tout ça. Donc, Dieu est tout puissant, Dieu est tout connaissant. Nous avons une liberté réelle, mais limitée. Ce n'est pas absolu. Maintenant, il y a quand même des conséquences. Il y a des conséquences inéchappables à cette configuration. Et ça, c'est les conséquences suivantes. Il y a un certain nombre de choses que nous souffrons dans la vie que nous aurions pu éviter si on avait fait d'autres choix. Et là, on ne peut pas avoir les deux façons parce que souvent, quand il nous arrive des malheurs, on se dit, mais pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de... etc., etc. Donc, on a une certaine tendance à se déresponsabiliser en disant, mais voilà, Dieu est tout puissant, il aurait pu faire que je fasse un autre choix. Oui, il aurait pu faire, mais il n'a pas fait. Donc, soit vous avez une réelle liberté de choix donnée par Dieu, j'en conviens, et donc, certaines choses qui vous arrivent sont votre seule responsabilité, dans le sens précis que si vous avez fait d'autres choix, ces choses-là ne seraient pas arrivées. OK? Ou soit vous n'avez pas de liberté de choix, donc quelqu'un... Dieu est responsable pour tout ce qui nous arrive, mais on est des robots et on n'a plus de liberté morale et tout ça. Donc, ça soulève la question, quelle part de nos vies, quelle part des circonstances de toutes nos vies, vient de nous et quelle part vient de Dieu? Alors, maintenant je dois vous donner une réponse qui est peut-être décevante pour certains. Il a un écrit de Baha'u'llah où il a dit, alors j'ai déjà cité ça, mais je vais le citer encore une fois. Il dit, il y a trois choses que nous ne pouvons pas comprendre dans cette vie. Une, c'est la nature du vie de l'au-delà. Une autre, c'est la raison pour la souffrance des innocents. La souffrance non méritée, comme des petits bébés qui sont abusés, etc., c'est sans aucune faute de leur part, etc., n'est-ce pas? Et la troisième chose, c'est la frontière entre notre volonté et la volonté de Dieu, dans nos vies, par exemple. C'est-à-dire, on peut dire certaines choses sont évidemment la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Comme je dis, qui sont nos parents, où nous sommes nés et tout ça, toutes sortes de choses, circonstances dans notre vie, évidemment, sont déterminés par Dieu, par des circonstances hors de notre contrôle. Ce que j'ai mangé pour le petit déjeuner ce matin, c'est sûrement dans le champ de ma volonté. Maintenant, il se peut que je fais pas bon usage de ma volonté, que je suis tellement dans l'inconscience, que je mange telle ou telle chose comme un robot, etc., ou parce que j'ai lu une réclame à la télé, ou je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Mais ça, c'est différent de dire que je n'avais pas le choix de choisir ce que je voulais manger pour le petit déjeuner ce matin. Donc, il y a des choses qui sont nettement dans le contrôle de notre volonté, des choses qui sont nettement en dehors du contrôle de notre volonté, mais il y a cette zone grise, si on essaie de rapprocher, où on peut dire, mais voilà, qu'est-ce qui nous arrive dans un certain cas? Quelle est la part de la volonté de Dieu et quelle est la part de notre volonté là-dedans? Et Baha'u'llah a dit que nous ne pouvons pas savoir ça dans cette vie. Et on peut comprendre la sagesse de ça parce que si on avait cette connaissance, alors de point de vue moral, notre liberté, encore une fois, n'aurait plus de signification. C'est-à-dire, si je savais parfaitement, mais parfaitement ce qui était dans le champ de ma volonté et ce qui n'était pas dans le champ de ma volonté, alors devant n'importe quelle circonstance, j'aurais simplement, soit je sais que je peux réussir en faisant des choix appropriés, et donc je l'ai fait, sans angoisse et sans, etc. Soit je sais que c'est complètement en dehors de ma volonté, dans quel cas, je ne fais aucun effort du tout. Pourquoi? Parce que tout effort est vain, n'est-ce pas? Alors, tandis que le processus de développement spirituel et moral, comme Barla l'explique, c'est surtout par l'effort, par l'exercice de notre volonté. Vous vous souvenez de ce passage dans les extraits des écrits, où il dit que chaque âme est dotée des capacités qui viennent de Dieu, mais toutes ces capacités que vous possédez, en herbe, pour ainsi dire, peuvent se manifester seulement par suite de l'exercice de votre volonté, n'est-ce pas? Ça prend un effort de notre part. Mais si on avait la connaissance absolue de ce qui était dans le champ de notre volonté et ce qui n'était pas dans le champ de notre volonté, eh bien, l'exercice de notre volonté serait parfaitement inutile, parce que soit on aura 100% certitude qu'on peut réussir, donc quelqu'un, on ne fait pas d'effort, on agit tout simplement comme on sait qu'il faut agir, ou bien on sait que certainement tout ce que nous faisons est vain, donc quelqu'un, on ne fait rien du tout, n'est-ce pas? Donc jamais on fera un effort, n'est-ce pas? Jamais on serait dans cette incertitude qui fait qu'on essaye, qu'on essaye, qu'on essaye. Parfois nous réussissons, parfois nous ne réussissons pas. Mais nous ne pouvons pas, dans la plupart des cas, savoir d'avance si, oui ou non, nous pouvons réussir dans une certaine entreprise, n'est-ce pas? Maintenant, donc le mieux qu'on puisse dire dans ce cas-là, c'est ce qui nous arrive dans la vie est le résultat et de nos volontés, de nos choix, et de la volonté de Dieu. Et on peut imaginer que ces deux volontés, ou si on fait embarquer la volonté de tout le monde, tous les choix que tous ces acteurs font, n'est-ce pas, et la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas juste pour moi dans une vide, mais aussi pour l'humanité, enfin, c'est certaines parts de la volonté de Dieu pour moi, c'est aussi la volonté qu'il a pour tout le monde, n'est-ce pas, en fait. Il ne recommence pas à zéro avec chaque individu, n'est-ce pas. Donc, si on regarde tout ce système, on peut facilement imaginer que c'est immensément compliqué, c'est-à-dire il a imbriqué des choix des hommes avec des volontés de Dieu, et des choix des hommes et volontés de Dieu, etc., que c'est extrêmement complexe, avec beaucoup de boucles de rétroaction et toutes sortes de choses comme on a dans les ordinateurs, etc. Par la façon que je considère le plus utile à penser à la chose, et je vais vous l'offrir, je dis que la vie est un dialogue entre nous et Dieu. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que la volonté de Dieu, c'est un peu comme la chose suivante, que Dieu décrète un certain nombre de choses et puis se retire. N'est-ce pas? C'est-à-dire, par exemple, il dit, voilà vos parents, voilà vos gènes, voilà votre constitution qui vous est donnée et tout ça, et maintenant, débrouillez-vous avec ça. Tout ce qui vous arrive à partir de ce moment-là, c'est uniquement vos choix. Je n'interviens plus dans l'affaire, n'est-ce pas? Ça, c'est un peu comme on parle du déisme, la notion que Dieu est la cause première de toute chose, qu'il lance l'affaire, pour ainsi dire, et ensuite, il crée des lois aussi, et il lance l'affaire, il n'intervient plus. Alors, ça, ce n'est pas du tout le point de vue Baha'i. C'est-à-dire, nous croyons que Dieu intervienne régulièrement. D'abord, il a l'histoire des manifestations que Dieu envoie, Jésus, Baha'u'llah, etc. C'est une intervention de Dieu. Et nous parlons souvent de volonté de Dieu, de rechercher la volonté de Dieu dans nos vies. Nous prions pour savoir la volonté de Dieu, pour être guidés par Dieu. Donc, dans notre communion avec Dieu, dans nos cœurs, il y a aussi intervention de Dieu. Dieu peut nous inspirer d'agir d'une telle ou telle façon, n'est-ce pas? Donc, j'offre donc le schéma suivant. La vie est un dialogue entre nous et Dieu. C'est un dialogue constant. Et une certaine... Voilà, vous avez raison. C'est ça, oui. C'est ça. Alors, je m'explique un peu plus, et puis, bon. Baha'u'llah nous dit, enfin, il dit dans les écrits Baha'i, que Dieu ne veut que notre bien. C'est-à-dire, ça c'est un choix que Dieu fait. Dieu est capable de nous faire du mal s'il veut bien, n'est-ce pas? Il est tout puissant, donc s'il voulait nous écraser, il pourrait le faire, n'est-ce pas? Mais Dieu est aussi amour. Donc on a maintenant les trois caractéristiques principales, la volonté, la connaissance et l'amour. Okay? Donc Dieu a non seulement toute connaissance, il a non seulement tout pouvoir, il est tout amour. Il nous aime absolument infiniment. Et quand nous aimons, qu'est-ce que l'amour nous incite à faire? C'est de chercher le bien de ce que nous aimons, n'est-ce pas? Nous aimons quelqu'un, nous on veut le bien de cette personne. Donc Dieu nous aime infiniment, absolument, donc il veut notre bien. Mais ce qui est notre bien peut dépendre des choix que nous faisons à un moment donné, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si je suis rendu à un point K, où j'ai un choix entre A et B, supposons qu'il y a différentes qualités morales entre les résultats A et B, les conséquences A et B. Alors il se peut que si je réussis à faire le choix A, alors le Dieu va décréter certaines choses pour moi, mais si je ne suis pas capable de faire le choix A, si je fais le choix B, que décréter ces choses-là ne serait pas pour mon bien, parce que je vais être dans une autre configuration. Dieu est amour, et ce qu'il décrète pour nous dépend de notre bien, mais ce qui est notre bien peut dépendre des choix que nous faisons. Donc, ça veut dire que le dialogue entre nous et Dieu peut être assez délicat à cet moment donné. Je sais qu'il a eu des moments dans ma vie où j'étais conscient, où je priais au sujet de certaines choses, et où je ressentais, mais comme avec une clarté parfaite, que ce que Dieu allait décréter dépendait du degré de soumission que j'étais capable d'avoir, d'engendrer à ce moment. Que si j'étais capable d'aller jusqu'à un certain point, il allait décréter une chose, et sinon, il allait décréter autre chose, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que nous pouvons manipuler la volonté de Dieu. Mais ça veut dire que ce qui est la volonté de Dieu peut dépendre aussi des choix que nous faisons. Alors ça doit évidemment nous faire réfléchir, parce que... Mais nous pouvons quand même avoir la certitude que ce que Dieu décrète pour nous, c'est toujours pour notre bien, fonction des choix que nous avons faits. Que Dieu ne nous fait jamais souffrir gratuitement. Ça, c'est une promesse qui est dans les écrits pareils. Baha'u'llah le dit de la façon suivante, il dit, « Sachez que les décrets de Dieu sont de deux sortes. De sorte que la prière de l'homme peut changer ses décrets et ceux qui ne peuvent pas être changés. Il dit la raison, la deuxième catégorie qui ne peut pas être changée, c'était parce que le fait de les changer sera une cause de plus grand mal que de bien. Et Dieu voulant notre bien, comme faveur à nous, n'avait pas changé ces choses-là, même si nous voulons, nous pensons que c'est pour notre bien. Mais d'autres choses sont contingentes, dit Bahá'u'lláh, dans le sens que c'est ce que Dieu décrète quand nous sommes dans un certain état d'esprit, mais si par la prière et la méditation, nous changeons notre état d'esprit, Dieu peut décréter autre chose. Mais c'est lui seul qui sait vraiment notre état intérieur et si c'est pour notre bien véritable de changer ou non le décret, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, c'est l'image d'un dialogue entre nous et Dieu. Alors, c'est tout ce que je veux dire. Je nous invite.